Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont vous pouvez retrouver les derniers opus sur la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la fin du monde et oui, ça y est, c'est scientifiquement prouvé. La destruction de notre habitat et du milieu de vie de milliers d'autres espèces est en marche. Lundi 28 février, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié une nouvelle partie de son 6e rapport. Hey, ça fait un bon bout de temps qu'ils nous le disent, mais là, ben voilà, ça finit par être de plus en plus clair. Le GIEC pointe du doigt les conséquences de l'inaction de nos soi-disant représentants. L'inaction, dans le sens où les mesurettes prises de ci, de là, ne suffiront jamais à endiguer le phénomène de dérèglement du climat et les conséquences que nous allons subir. Nous, ben c'est tout le monde, hein, c'est-à-dire les animaux humains, mais aussi le reste du vivant. Donc, ben, des centaines d'espèces animales et végétales sont menacées. Voilà pour les conséquences, mais menacées d'extinction, hein, menacées de mort irrémédiable. De même, les épisodes climatiques extrêmes se multiplient. Eh oui, c'est déjà le cas, mais ça sera pire. Les maladies infectieuses comme la dengue touchent de plus en plus de populations et ça sera de pire en pire. D'autres maladies comme l'anxiété prennent de plus en plus de place. Hein, l'éco-anxiété, le phénomène qui fait que une partie de la population a peur des conséquences du dérèglement climatique. Après, faudra essayer de se mettre un petit peu en cohérence et puis voir comment faire pour éviter de participer trop à ce dérèglement climatique. Donc, l'anxiété, ça prend de plus en plus de place et on va devenir tous de plus en plus dingues. Les pénuries d'eau et de nature gagnent de nourriture, gagnent en plus du terrain du fait du réchauffement général du climat et donc des sécheresses et de la destruction des terres arables. Eh ben voilà, et je pourrais multiplier là, je pourrais en rajouter, je pourrais donc passer l'émission à vous donner les conséquences sur nos milieux de vie et sur notre vie. En général, une fois le constat fait et bien fait depuis des dizaines d'années, oui des dizaines d'années hein, par les prospectivistes qui travaillent sur l'écologie et maintenant par les scientifiques qui nous bombardent de chiffres et de graphiques, eh bien que faire comme disait l'autre. Le GIEC propose de s'appuyer sur les écosystèmes en bonne santé, ce qui contredit totalement le discours techno-scientifique des partisans du remplacement des phénomènes naturels et de leur équilibre. Parce que ces phénomènes naturels, si ils existent, c'est parce qu'un équilibre a été créé tout au cours de l'histoire de la planète et que finalement ça fonctionnait. Oui, eh ben là, il y a des gens qui ont un discours techno-scientifique et qui veulent que finalement, on remplace ces phénomènes naturels par quoi ? Eh bien, par des inventions techniques. Oui, on a tous entendu et vu des reportages sur des abeilles de substitution, des abeilles robots qui vont polliniser les plantes à la place des vrais. Tout ça, c'est bidon. Hein. Ces solutions sont bidons, mais bidons du début jusqu'à la fin. Elles visent simplement à nous faire croire que nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit. Ou alors à la marge. Hein. Attention, quand tu te laves les dents, ce serait bien que tu fasses pas te couler l'eau du robinet. Ah oui, alors de toute façon, couler l'eau du robinet, oui, ce serait bien de pas le faire couler cette eau hein, qui est une eau potable pendant qu'on se lave les dents. Mais c'est pas ça qui va changer la face de la planète. Maintenant, si on est conscient soi-même que l'on ne doit pas gaspiller au niveau de chaque particulier, c'est quand même important puisque ça passera essentiellement par nous. Hein, ce changement se passera par nous en tant que personne. Mais il va falloir aussi qu'on pousse un petit peu ceux qui sont nos soi-disant représentants à changer leur fusil d'épaule. Parce que ces solutions bidons qui visent finalement à ce que rien ne change, eh bien, ça vise aussi à nous faire croire que la solution, ça sera une solution technique. Et que la technique va nous sauver. Oui, c'est l'innovation. L'innovation qui innove, waouh, c'est nouveau, c'est mieux. Non, c'est pas mieux que l'équilibre naturel. Donc, s'appuyer sur les écosystèmes, voilà déjà l'idée du GIEC. Simplement, des écosystèmes en bonne santé, il y en a de moins en moins. Alors, la solution, finalement, elle est connue. Elle est connue depuis que le problème est connu. N'en déplaise aux philosophes médiatiques à la Luc Ferry, un développement infini est impossible dans un monde fini. Et on ne le sait pas depuis avant-hier. Non. Dès le début du 19e siècle, des géographes constatent les dégâts des activités humaines mis en œuvre avec la révolution industrielle, notamment sur les forêts, parce qu'il en faut de l'énergie. Et du coup, on coupe les forêts, on brûle tout ça, on fait du charbon de bois, et puis mon gars, vas-y, ça tourne la vapeur. Ouais, simplement, il y a des régions entières qui ont des petits soucis. Alors, à la suite des précurseurs, comme des Élysées reclus à la fin du 19e, on peut citer un certain Jean Brune dans sa géographie humaine au début du 20e siècle, et les travaux de son frère Bernard Brune avec son livre sur la dégradation de l'énergie. Lui, il est physicien plutôt, qui date de 1908. Ça montre déjà l'épuisement programmé des ressources et l'insoutenabilité de notre mode de vie en devenir. Puisqu'on est au milieu du 19e, il n'y a pas encore la société de consommation. Oui, on continue à user les choses. Imaginez, déjà, ils avaient vu que on était sur la mauvaise pente. D'autres, dans le monde entier, et depuis, pointent du doigt le délire de l'économie capitaliste basée sur la philosophie libérale pour l'écologie de la planète. Un certain Murray Bookchin, penseur de l'écologie sociale, déjà cité sur cette antenne. Des économistes s'y sont mis bien avant le Club de Rome, on en parle juste après. Tiens, par exemple, Kenneth Boulding, mort en 1993. Il était économiste, mais aussi poète et quaker. Eh ben, pourquoi pas? Il est célèbre pour ses recherches sur les systèmes complexes. Et quoi de plus complexe qu'une planète? Il s'était aperçu dès les années 50 que l'économie et les milieux de vie sont liés. Donc l'activité économique aura des conséquences sur notre milieu de vie. Comment qu'on fait avec ça? Bon, il le disait beaucoup mieux que moi. Il est l'auteur de la fameuse sentence « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Et là, ben, il pointait du doigt les fameux libéraux, hein, qui pensent que de toute façon, il faut tout laisser faire, tout laisser passer. Et après, il y a eu justement le Club de Rome. Le Club de Rome est le rapport de 1972 qu'on intitule le rapport Meadows de l'un des auteurs. Il y a donc 50 ans, les chiffres étaient déjà là pour la destruction de cette planète si on continuait comme ça, avec une bonne dose de contrôle des naissances, hein, ce qu'on appelait à l'époque la bombe P. Pour BP pour population. En 1972, un ouvrage collectif des membres de la revue The Ecologist s'intitulait « Changer ou disparaître » et reprenait une partie des thèses du Club de Rome. Donc on sait tout ça. On sait quelle est la solution. L'effet pourrait être multiplié parce qu'avec les années 70 naissent le courant l'écologie politique, et puis les groupes écologistes radicaux qui ont une vision du monde qui montre qu'il faut revenir à des choses plus naturelles. Donc, des livres ont été écrits, des productions ont été produites. Elle est bonne, celle-là. Donc, du coup, on a tous les éléments. On le sait depuis si longtemps. On sait depuis si longtemps que le mode de production de la société de consommation n'est pas viable. Et pourtant, depuis les années 80, on nous a fait le coup du développement durable. Vous vous souvenez de ça? Ouais, développement durable. On va continuer à produire, mais ça sera durable. Non, ça marche pas. Après, on nous a fait le coup du recyclage. Ouais, d'accord, on gaspille. Mais on va recycler le gaspillage. Ça marche pas non plus. Et puis maintenant, c'est l'économie circulaire. Il faut qu'à chaque fois que l'on a un produit, il soit démontable, réutilisable. Mais ça marche pas non plus puisqu'il y a l'obsolescence programmée et qu'une grande partie de nos productions ont une durée de vie de à peu près pas longtemps et sont jetées à partir de la première utilisation. Donc, eh ben, on continue à nous bourrer le mou. Maintenant, c'est la croissance verte. Des changements virtuels, des changements sémantiques pour que rien ne change au royaume du business. De fait, ne pas comprendre ce qui se joue montre la volonté de continuer comme si de rien n'était. Les travaux du GIEC et de tous ceux qui se sont intéressés aux liens entre les activités humaines et les milieux de vie, avant eux, peuvent fleurir comme les primes vertes actuellement. Ouais, parce que c'est bientôt le printemps. Les preuves de notre part dans la destruction de l'environnement peuvent s'accumuler si nos soi-disant représentants sont animés par l'économie libérale du laisser-faire, laisser-passer. Ils continueront de faire la promotion de l'accumulation comme un critère de réussite de leur idéologie. Ils continueront de faire la promotion de la consommation de biens et de services comme critère de l'accès au bonheur. Nos soi-disant représentants continueront de nous préférer, nous, les humains, comme des ressources humaines, courant après du pouvoir d'achat pour montrer des signes extérieurs de richesse, que comme des êtres humains, justement, responsables, conscients des conséquences de leurs actions. Le 6e rapport du GIEC peut servir à caler des armoires, faire joli dans une bibliothèque, mais il peut servir aussi à enfin prendre conscience que l'humanité scie la branche sur laquelle des milliers d'espèces animales, dont nous sommes, et végétales sont assis. Si nous voulons aider à réduire les impacts de nos vies sur la planète, nous n'avons pas d'autre choix que l'auto-limitation. Ouais, est-ce que j'ai besoin d'une quatrième piscine ? La volonté, la simplicité volontaire, voilà ce que nous devons mettre en avant. La sobriété heureuse, j'ai repris à peu près toutes les expressions qui vont vers ce qu'on appelle la décroissance. De fait, il faut changer d'imaginaire pour cesser de croire que plus, c'est forcément mieux. Donc, en premier lieu, nous prendre nous-mêmes par la main. Et en deuxième lieu, concomitamment, on va pas attendre de tous se prendre par la main, eh bien, en deuxième lieu, et de manière collective, on doit se débarrasser pacifiquement de l'idéologie du libéralisme économique. Ils seront pas d'accord en face, ils balanceront du CRS et compagnie, mais nous essayons de le faire de cette manière-là. De temps en temps, nos soi-disant représentants nous demandent notre avis à travers des élections. Eh ben, clairement, pour les prochaines, il faut voter anticapitaliste. Pourquoi ? Ben, faut pas voter pour machin ou pour bidule, on a rien à foutre de ça, c'est pas la cravate qui nous intéresse ou le brushing, non. Regardez dans le programme. Si les personnes proposent la fin du productivisme, la fin du capitalisme et un retour à une certaine sobriété, on n'a pas besoin d'accumuler toujours plus de produits, toujours plus de biens, toujours plus de services pour être heureux, ouais, bah ok, bah votez pour eux. Voilà, moi c'est ce que je vous propose. Clairement, pour les prochaines, les élections qui vont arriver, faut voter anticapitaliste pour nous donner une chance de limiter les dégâts. À bon entendeur. Tiens, et puis troisièmement et accessoirement, samedi 12 mars, à l'initiative de Alternative by Greenpeace, des marches pour le climat sont organisées dans toute la France, avec d'autres groupes dans d'autres villes. Eh bien, au Mans, c'est à 14h, place de la République, venez avec votre pancarte. On aurait pu vous parler également de la lutte qui paie. Oh, mais pas beaucoup, mais quand même. Mercredi 2 mars devait se tenir une audience devant le tribunal du Mans contre deux représentants syndicaux accusés, mais pas accusés nommément. C'est-à-dire que c'est pas le syndicat qui est accusé. Donc deux représentants syndicaux accusés par Le Mans Métropole et son président, qui est par ailleurs maire du Mans, un certain Stéphane Le Foll, d'être responsable des blocages du site de la Chauvinière. Les blocages ont été levés et Le Mans Métropole a donc retiré sa plainte. Parce que depuis le 22 février, un conflit oppose des communaux à leur direction pour une revalorisation des salaires et l'embauche des précaires. Les négociations n'ont pas eu lieu, d'après les représentants syndicaux. Le président de Le Mans Métropole intervient, lui, régulièrement dans la presse, depuis le début du conflit, pour expliquer que la grève, ça coûte de l'argent. Oui, Stéphane Le Foll est un socialiste qui compte. Ah ben, c'est plutôt un membre du Parti Socialiste qui communique comme les contribuables associés. Sur le fond du conflit, pas de traces dans la presse. Ah seulement, c'est trop cher la grève. Sur la pénibilité du boulot, sur les contrats précaires, soit la presse locale ne rapporte pas les propos de Stéphane Le Foll, soit il n'en dit rien. Et au début de la semaine, l'arme de destruction massive, la plainte, non pas contre les syndicats, mais contre deux personnes physiques. Ça, c'est possible depuis que les Sarkozy et Hollande ont fait passer un certain nombre de lois, au cours des lois travail, par exemple, pour de fait pouvoir criminaliser plus avant ceux qui se mettent en grève, ceux qui sont pas d'accord pour qu'on se fasse exploiter en rond. Non, ben non, ça c'est pas bien. Du coup, ce qu'ils font, c'est que maintenant, on attaque personnellement. Les grèves sont de plus en plus déclarées illicites. Judiciarisation des négociations. C'est pas fait pour alimenter le bonheur, le bien-être, et non plus pour limiter les conflits. Parce que quand des gens se mettent en grève, c'est qu'il y a déjà un conflit. Si en plus on te colle une plainte sur le dos, je sais pas si ça aide à négocier plus tranquillement. Donc en début de semaine, cette arme. Il eût peut-être été préférable de négocier, de discuter, de limiter le ressentiment. Alors est-ce que c'est légal d'aller bloquer la Chauvinière ? Sans doute que non. Comment on fait pour débloquer la Chauvinière sans que ça soit une obligation judiciaire ? Parce que ça va pas aider à faire en sorte que tout le monde reprenne sereinement le travail. C'est juste mettre un petit quelque chose par-dessus. Tiens, on dirait des CRS qui vont tabasser des gilets jaunes sur les ordres de nos soi-disant représentants pour faire en sorte qu'à un moment, ils arrêtent de se plaindre. Mais est-ce que l'objet de leur plainte sera véritablement détruit ? Je ne crois pas. Donc il eût peut-être été préférable de discuter. Mais ce n'est plus la politique de nos mairies et communautés de communes de gauche. Non, que ce soit pour la CETRAM ou l'évacuation des ordures, le clash est privilégié. Et dans la com, l'appel du pied au sentiment anti-fonctionnaire du Pékin moyen qui paye ses impôts est toujours et permanent. Seulement, mercredi 2 mars, 300 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice à l'appel de l'intersyndicale et elles ont alors appris que les plaintes étaient levées. Mais la presse locale nous rapporte que le président de l'ex-CUM se réserve le droit d'assigner les grévistes pour payer le coût de la grève. Ça s'arrêtera quand ? La suite ? Eh ben, c'est toujours la grève et des négociations le 8 mars. Cette grève nous a aussi montré autre chose, en l'occurrence notre dépendance à l'enlèvement des ordures. Tous ces déchets de la société de consommation, des emballages, des bouteilles pas réutilisables, que l'on jette pleines d'ailleurs, pleines d'air. On remet le bouchon, on met dans la poubelle. Ouh, allez, combien de centimètres cubes d'air balancés à la poubelle tous les jours? Des canettes, des cartons comme s'il en pleuvait. La production de déchets en quantité industrielle lors du lèche-vitrine du samedi après-midi, après les marchés en plein air, après les livraisons des commerçants. Tout ça, ça restait dans la rue. Et on voyait quoi? Ben, on voyait les conséquences de notre mode de vie. D'habitude, tout ça est caché par l'action des éboueurs. Mais en une semaine, les conséquences de notre consommation effrénée débordent des containers. Une semaine, ça fait pas beaucoup de marge de manœuvre. Là aussi, il faudrait peut-être devenir responsable au quotidien. Je le dis par exemple à tous les adorateurs d'Amazon et d'autres services de livraison qui font circuler des camions en quantité pour avoir l'objet de leurs achats compulsifs en moins de 24 heures chrono. Et ensuite, eh ben tout ça, les cartons et compagnie, ça encombre les poubelles. Peut-être qu'il faudrait devenir un petit peu plus raisonnable. On aurait pu vous parler du ouf de soulagement que nous avons tous poussé cette semaine quand nous avons appris que les candidats d'extrême droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, vont pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Oh, et moi, j'ai flippé à un moment. Bon, c'était un petit peu la teneur de ce qu'on entendait cette semaine, quand tout ce beau monde a eu ses 500 parrainages, dans les médias, un média national comme France Info, par exemple, où il y avait ce ouf de soulagement. Enfin, ça fout les boules, arrêtez de montrer si vous êtes vraiment pour eux. Ainsi, ils vont pouvoir diffuser officiellement ces candidats d'extrême droite. Officiellement, ils vont pouvoir diffuser les idées de hiérarchie entre cultures, entre réfugiés. Les Ukrainiens, c'est mieux que les Syriens. Oui, ça peut-être que ça va pouvoir être diffusé officiellement. C'est en tout cas ce qui se passe actuellement. De la même manière, les travailleurs venant de l'étranger qui ne sont pas blancs et qui travaillent en Ukraine et qui tentent de se barrer du pays se retrouvent coincés à la frontière. Mais tout va bien. Et c'est les idées de la hiérarchie entre cultures, entre réfugiés, en clair, entre êtres humains, vont pouvoir être diffusées officiellement pendant la campagne. C'est pas cool, ça? Ils vont, ces candidats d'extrême droite, pouvoir affirmer haut et fort que les Français valent plus que les autres et doivent être prioritaires pour tout. Alors à propos de l'idéologie d'extrême droite, s'ouvre le lundi 7 mars une semaine de réflexion pour lutter justement contre ces idées d'extrême droite qui sont présentes et un petit peu trop présentes quand même sur la place publique. Alors, le lundi 7 mars, s'organiser face à l'extrême droite, une intervention de Visa. Visa, ce sont des syndicats, en l'occurrence les Vigilances Intersyndicales Antifascistes, donc des représentants syndicaux qui se sont rassemblés pour voir justement, pour lutter contre l'influence de l'extrême droite à l'intérieur du monde du travail. Donc une intervention faite par Visa s'organiser face à l'extrême droite le lundi 7 mars, salle Les Ardrières, c'est dans le quartier des Ardriers. Le mercredi 9 mars, football, sport et extrême droite. Une intervention d'un journaliste de Street Press, Street Press qui fait du très très bon travail. Ça sera à la salle Charles Trenet. Renseignez-vous, j'ai pas noté les adresses. Oh là là. Vendredi 11 mars, les villes sous influence de l'extrême droite avec un certain monsieur Koenig de l'Humanité et Nantes Révoltée. Ça sera à la salle Barbara qui est à Pontlieu. Ensuite, le samedi 12 mars, face à la réaction patriarcale de l'extrême droite, intervention là encore de Visa, et il y aura également un concert à 18h, et donc ça sera à la salle du Royal. Alors tout ce que je vous ai dit là, le lundi 7 mars, mercredi 9 mars et vendredi 11 mars, c'est de 18h30 à 20h30, et le samedi 12 mars, ça commencera à 16h, salle Le Royal. Et à 18h, il y aura un concert d'électro, histoire de finir quand même un peu festif, après avoir parlé de toutes ces idées un petit peu nauséabondes dont on nous rebat les oreilles, mais qui vont enfin pouvoir s'exprimer puisque les 500 parrainages les candidats d'extrême droite, je vais y arriver, ont réussi à avoir leurs 500 parrainages. Donc, lundi 7 mars au samedi 12 mars, plein de choses à faire pour essayer de s'organiser et comprendre à quelle sauce ils veulent nous bouffer. On aurait pu vous parler également de féminisme. Au Mans, c'est tout neuf, c'est créé un nouveau groupe féministe, Némésis le Mans. Alors Némésis, c'est le nom d'une déesse grecque qui symbolise la colère des dieux contre la démesure des hommes, mais aussi des femmes. Elle sert aussi à personnifier la vengeance. Et depuis 2019, c'est le nom d'un groupe de féministes identitaires. Eh oui, féministe identitaire, c'est pour pas dire féministe nationaliste. Alors féministe nationaliste, bah, comme à chaque fois qu'il y a nationaliste, c'est nationaliste et après féministe. Les nationaux-socialistes, par exemple, ceux qu'on appelait les nazis, c'est pas un point Godwin, c'est un point d'histoire. Les nationaux-socialistes, bah, d'abord ils défendaient les Allemands et puis après ils étaient d'accord pour faire du social. Eh ben là, elles sont d'abord pour défendre les femmes blanches, occidentales, et après elles défendent les femmes. Un collectif féministe identitaire dont je vous livre un morceau du manifeste. Le collectif Némésis est né en octobre 2019 à l'initiative d'un groupe d'amis ES, lassés d'entendre les supercheries des mouvements dits féministes censés les représenter. Ces derniers préfèrent faire passer une idéologie gauchiste aux dépens des femmes. Bon, alors là, déjà, en lisant ça, je commence déjà à tiquer, hein, je suis même pas au courant qu'ils sont identitaires quand je le lis, mais je me dis, tiens, il y a un truc qui va pas, là. Aux dépens des femmes, une idéologie gauchiste, en quoi l'idéologie gauchiste est aux dépens des femmes? Pas d'explication, non, non, c'est asséné comme ça. Ça sent déjà le nationalisme et les relents de l'extrême droite, avec les fautes d'orthographe habituelles. Je continue. Le collectif Némésis a donc décidé de s'emparer du combat concernant l'épanouissement de la femme occidentale. Ouais, et pas les autres. Eh ben ok, on y est, hein. C'est bien l'extrême droite qui instrumentalise la lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, tout va bien. Trois objectifs répondent à cela. Dénoncer toutes les violences faites aux femmes, aussi bien dans leur quotidien que sur leur lieu de travail ou encore dans la rue. Bon bah jusque là, moi je me dis, ouais, pourquoi pas? Après, le deuxième, puisqu'il y a trois objectifs, dénoncer l'impact dangereux de l'immigration de masse sur les femmes occidentales afin que ce sujet devienne un débat public. Ben voyons, promouvoir la civilisation européenne et non pas... Ouais, ok, bon, bah... Ah là 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 là. Bon, bah les nationalistes, relisez-vous au moins, parce que, ouais, il y a quand même un petit peu d'erreur. Et à un moment, le mot épanouissement, ils ont carrément oublié le, c'est leur manifeste, hein. C'est leur vitrine, quoi. Alors relisez-vous un petit peu, vous qui défendez la France et sa culture contre le reste du monde, soyez au moins irréprochables dans les documents que vous présentez à notre lecture. Au-delà de la forme et dans le fond, on est dans l'idéologie raciste, où les ennemis sont les étrangers. Bon bah les étrangers hommes, hein, là, dans ce coup, mais des étrangers quand même. Alors j'ai pas creusé la question sur la position de Némésis à propos de l'homosexualité. Si quelqu'un en sait plus, une adresse, c'est pas moi tout attaché, C-E-S-T-P-A-S-M-O-I, c'est pas moi, @no-log.org. Oh, Mans aussi, cette semaine, puisqu'on parle de féministes, ont également fleuri des autocollants. Des autocollants transparents avec du texte en noir et rose. On peut lire par exemple sur certains qu'un féminicide a lieu toutes les 48 heures. C'est de l'info. Et en effet, un féminicide a lieu toutes les 48 heures. Il y a quand même un truc qui va pas. On doit pas tuer des gens comme ça. Bon, faudrait aussi faire des... C'est pas de la concurrence, hein, c'est de la complémentarité. Faudrait aussi faire également des autocollants pour indiquer que à peu près, une personne et demie qui meurt au travail, un accident de travail, une personne et demie tous les jours en France. Bah ouais, il y en a 500 à peu près par an. Eh oui, chiffre de la sécu, hein. D'autres autocollants, donc là on revient aux féministes, donc d'autres autocollants annoncent par contre homme 6 égale violeur. Alors 6, c'est pour cisgenre. J'ai donc cherché une définition parce que je me dis, est-ce que tu comprends vraiment ce qui est noté? Homme 6 égale violeur. Le Larousse me dit, cisgenre, adjectif et nom, de l'anglais cisgender, se dit d'une personne dont l'identité de genre est en adéquation avec le sexe assigné à sa naissance. Donc, le Robert me dit, c'est toujours un adjectif et un nom, qui concerne une personne dont l'identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance, par opposition à transgenre. C'est intégré? Donc ce sont bien les hommes et les femmes qui respectivement se sentent hommes et se sentent femmes, et si j'ai bien compris ce que j'ai lu on the web, cela n'a rien à voir avec leur sexualité. Donc, il y a des hétéros cis, des homos cis, des pansexuels cis, des aromantiques cis, etc. Mais il faut garder à l'esprit que tant que l'identité de genre correspond à leur sexe de naissance, un cis reste un cis. Même si le cis ne se conforme pas au comportement, aux apparences ou au rôle stéréotypé de genre. Mais tant que son identité de genre correspond à son sexe, c'est un cis. Alors revenons aux autocollants. Homme cis égale violeur. Je me demande si c'est pas un petit peu réducteur. Enfin, complètement réducteur. Faire des hommes cis Bon, bah là, c'est homme 6 au singulier. On s'adresse à toi en tant que personne. Homme 6 égale violeur. Donc, faire des hommes 6, de tous les hommes 6, un par un, des violeurs, n'est-ce pas une assignation? C'est-à-dire une reconnaissance a priori de la personne en déterminant ainsi sa place dans la société. En faisant des hommes 6, tous les hommes 6, des violeurs, ceux qui ont produit ces autocollants ne laissent aucune chance aux hommes 6 d'être autre chose. Et donc, ils sont a priori des violeurs. Les personnes auxquelles j'en ai parlé m'ont affirmé que l'idée est plutôt... Alors, ce ne sont pas les producteurs hein, de l'autocollant. Les personnes auxquelles j'en ai parlé m'ont affirmé que l'idée est plutôt de mettre un coup de pied dans la fourmilière et finalement de cibler la culture du viol. Si l'objet est bien la dénonciation de cette culture, je crois que la cible est loupée. En tant que propagandiste. Le résultat me semble plutôt être une essentialisation des hommes cis. Et de fait, plutôt le résultat, c'est la création d'un préjugé. Aussi, je lance un appel à ceux qui collent ces stickers et qui les produisent. Trouvez un moyen plus subtil de dénoncer la culture du viol, si c'est l'objet, sans mettre tous les hommes cis dans le même panier. Parce qu'avec ce genre d'amalgame, la discussion devient plus difficile. Parce que, qu'est-ce que je peux répondre, moi, homme cis, ouais, j'en suis, à un mec un peu trop testostéroné qui affirmerait que toutes les féministes détestent les hommes? Eh ben, la preuve! Et il me sortira l'histoire de l'autocollant. Soyons un peu plus fins que nos ennemis, merci d'avance. À propos de testostérone, on apprend cette semaine que les CRS qui ont tabassé sans vergogne des gilets jaunes dans un fast-food de 1er décembre 2018, alors qu'ils ne représentaient aucun danger, pas les CRS, les gilets jaunes, s'en sont très bien sortis, plus de 3 ans après les faits, en passant devant une commission de discipline. Devinez, sur la douzaine de CRS, 2 ont écopé d'un avertissement. Les chefs, les autres, que dalle, chiben. Ils vont ainsi pouvoir continuer à défendre les valeurs républicaines sans une tache dans leur dossier professionnel. Sinon, vendredi 4 mars, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, un certain Philippe Poutou du NPA était en meeting au Mans à la salle Barbara à Pont-Lieu pour présenter, je cite, un programme de lutte collective et de renversement du capitalisme. Alors, il peut peut-être se présenter à l'élection, hein, c'est fini depuis le 4 mars. Pour les auditeurs du samedi, ben on ne sait pas encore. Pour les autres, vous le saurez puisque le lundi 7 mars, le Conseil constitutionnel va annoncer la liste des candidats officiels qui ont obtenu les 500 parrainages. Eh ben j'espère qu'on pourra quand même le voir parce que dans les débats, les interviews, on pourra peut-être entendre ce genre d'idées.
Parmi les mesures que vous proposez, je cite précisément votre programme, vous parlez d'une réduction massive du temps de travail. C'est quoi massive?
Ben là c'est 35 heures. Alors à l'heure où on nous dit que les 35 heures c'est du luxe, ben nous on pense qu'il faut réduire. Alors 32 heures, on va aller vers les 32 heures et aller au-delà, parce que l'idée là aussi c'est une idée toute simple, c'est que tant qu'il y a du chômage, ben 30 heures et puis s'il faut moins, parce que nous on est pour bosser le moins possible et gagner le plus possible.
Si on pouvait ne pas travailler
du tout, on serait pas contre hein, parce qu'on n'est pas non plus des forcenés à dire ben il faut bosser parce que ça fait bien de dire ça. Non, si on peut, ben, le problème c'est qu'il y a du chômage et de la précarité, donc il faut répartir le travail entre tous et tant qu'il y a du chômage, il faut diminuer le temps de travail. C'est comme ça que ça devrait pouvoir marcher et c'est vrai qu'on se revendique un peu de certaines idées du mouvement ouvrier, notamment il y avait Lafargue qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le droit à la paresse. Ben oui, c'était de dire que plus il y avait de richesses techniques et scientifiques, plus il y avait la capacité de produire des choses, ben plus il y avait une logique aussi derrière, c'était ben, de diminuer le temps de travail et voilà, de s'émanciper un peu de tout ça au fur et à mesure. Donc on pense qu'une société riche de ça pourrait le permettre.
On était sur RTL avec Jean-Michel Apathy qui jouait la mouche du coche là et du coup il s'est fait bouler le pauvre et puis Philippe Poutou, on était en avril 2012 et c'était déjà l'idée que oui, on n'est pas obligé d'être simplement des ressources humaines. Bon, on entend derrière un petit truc, une trop grande confiance dans l'innovation technique, mais ça fait quand même du bien de pas être simplement une ressource humaine. Donc si on pouvait l'entendre, bah ce serait un discours un peu différent de ce qu'on entend habituellement. Si vous voulez des informations sur tout ce qui se passe cette semaine, parce qu'il s'en passe des choses à Alonne, à La Flèche, etc., allez voir sur sarthe.demosphère.net. Et nous, on est carrément en retard. Alors, c'est pour ça qu'on va se contenter de vous dire, en espérant que ça ne pète pas à cause de l'Ukraine, où il y aurait des nazis. Tiens, il y aurait des choses à dire sur cette propagande. Tout simplement de vous dire, allez, au revoir.